Hey, how you doing?
Now, say my name.
You can't do anything with the information you have except maybe publish it in the Everyone Thinks We're Insano's home journal.
I come here to help, but y'all out for blood. I'm not answering no more questions.
Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans l'épisode numéro 58 d'un épisode et j'arrête, le podcast de l'Association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes en 2050 et l'ACS a pris le pouvoir en France. Celles et ceux qui n'aiment pas les séries ont été traqués, emprisonnés et forcés de passer leur journée dans une réplique de l'appartement de Friends à apprendre par cœur des répliques des Sopranos. Évidemment, ce que je vous raconte est faux, mais peut-être, pourquoi pas, ce synopsis sera-t-il un jour le sujet d'une série dystopique. En attendant, nous allons parler de celles qui existent déjà, ces dystopies, qui sont de plus en plus nombreuses à éclore sur nos écrans. Et on se demandera, mais pourquoi le futur est-il si flippant? Ici Marie Turcan de Numérama. Mon objectif aujourd'hui, au cours de ces 30 prochaines minutes, sera d'obtenir de mes confrères une définition en une seule phrase de la démocratie, du bonheur et de la bioéthique. J'espère que vous avez bien révisé autour de moi. Asma El Mardi de Brain Damage, salut.
Hello.
Pierre Langlais de Télérama.
Salut.
Et Alexandre Buyukodabas, est-ce que je le prononce bien,
très bien. Bonjour.
Chers auditeurs, il ne vous aura pas échappé que ces derniers temps, le futur, ça fait peur. De Westworld, dont la saison 2 vient de débuter, à La Servante Écarlate, de Black Mirror à The 100, en passant par Trépalium, vous vous souvenez de Trépalium ? Les séries semblent s'être donné le mot pour puiser dans nos plus grandes angoisses, afin de façonner des sociétés imaginaires, malsaines et oppressantes. Alors, hasard du calendrier ou mouvement culturel marqueur d'une époque, que veulent nous dire ces séries qui mettent en scène le futur pour mieux critiquer le présent ? On va parler de tout ça, évidemment, mais pour commencer, Asma, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de la dystopie ? Qu'est-ce qui caractérise la dystopie ?
Alors, la dystopie, c'est un univers qui peut être futuriste, mais qui est le contraire de l'utopie, c'est-à-dire que c'est un univers noir où les choses se passent mal en général. Je pense que j'ai assez résumé la chose.
Ça tourne, hashtag ça tourne mal. Pierre, est-ce que tu as une autre caractéristique ?
Non, c'est un peu ça. C'est une réflexion sur les temps présents en projection dans l'avenir en général. C'est vrai que tu avais raison à se mettre à dire que ça se passe souvent dans le futur. Pas forcément dans des mondes futuristes. Ça peut être une société qui ressemble beaucoup à la nôtre, mais où effectivement les choses auraient mal tourné d'une façon ou d'une autre. Et ces dystopies, la plupart dont on va parler aujourd'hui, ayant cette particularité, alors pas The 100, parce que là pour le coup c'est quand même assez futuriste, étant qu'évidemment plus ça nous ressemble, plus c'est proche de nous, plus c'est flippant.
Est-ce qu'il y en a une qui diffère un petit peu de tout ça, ou est-ce qu'elles sont vraiment toutes pareilles, Alexandre ?
Moi je pense que la série Black Mirror par exemple, qui se présente comme une anthologie, explore des genres très très différents et des univers très différents et permet comme une espèce de panorama de tous les possibles de la dystopie, donc ouais, une forme plus éclatée que les autres.
C'est un peu l'hyper-dystopie, ouais. C'est vrai que si on devait faire une étude universitaire de la dystopie, c'est pas mal Black Mirror.
Alors quand on pense à dystopie, on pense avant tout à la littérature, et on va le dire tout de suite, le mot 1984, hein, ce roman de George Orwell, il y a aussi Fahrenheit 451. Est-ce qu'on retrouve des éléments de cette littérature-là dans les séries dystopiques d'aujourd'hui ?
Oui, clairement, c'est, alors après, j'ai pas fait d'études littéraires poussées pour arriver à voir le détail des citations, mais clairement, Orwell est souvent référencé, Aldous Huxley aussi, Le meilleur des mondes, toute cette littérature-là est très présente dans ces séries-là, elle est même parfois directement adaptée, The Man in the High Castle, Venez à mon secours, les amis, adaptée d'un bouquin de L'homme du haut château, Philippe K. Dick. Voilà, donc, il y a évidemment quelque chose de très littéraire dans les séries en général, en fait. C'est un peu un lieu commun. Mais effectivement, peut-être plus spécifiquement dans les dystopies.
Parce que en cherchant un petit peu, du coup, les séries que j'ai nommées tout à l'heure, pour moi, il y en a une qui se rapproche beaucoup plus de la littérature que les autres, c'est The Handmaid's Tale. Parce qu'on est vraiment dans une société alternative qui ne parle pas de la qui ne prend pas vraiment en compte la technologie. Du coup, on va...
Pour ces raisons. pour ces raisons, elle prend pas en compte la technologie parce que justement, c'est un retour en arrière tout en étant dans un monde futuriste, en fait. On retourne à des valeurs puritaines, on retourne à des valeurs de simplicité. On a l'impression, en fait, de revenir au 18e siècle avec Handmaid's Tale, surtout quand on regarde la série, en fait.
Le message fort de cette série, c'est avant tout, on s'est pas réveillé.
I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Offred. I had another name.
Ladies, I have to let you go. It's the law now.
Alors pourquoi La Servante Écarlate réussit tellement à nous mettre mal à l'aise, Pierre ?
Alors déjà, pour rebondir sur ce que disait Asma, c'est vrai que c'est une des particularités de certaines dystopies, dont La Servante Écarlate est la meilleure illustration aujourd'hui, de nous proposer des présents futurs, on va dire ça, parce que ça pourrait être très bien dans le présent. Alors c'est tricky avec la Servante Écarlate, parce qu'en plus c'est un bouquin de 85 à la base, donc c'est pour ça aussi que ça fait un peu old school. Excusez pour tous les anglicismes, mais il y a Into the Badlands aussi qui vient de reprendre aux États-Unis, qui est une série. Ça se passe dans le futur, sauf qu'en fait, la société américaine a complètement régressé à l'époque, en gros, des colons et des esclaves.
Il y a des révolutions aussi, voilà, qui étaient un peu comme ça.
Exactement, il y a ce fantasme que le futur, en étant dystopique, va être un retour en arrière. Je crois que c'est l'expression de la peur des conservatismes qui est on ne peut plus crédible aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde où on a la tentation de la réaction et du retour en arrière, et c'est pas pour rien que Trump a été élu, et donc ces séries-là témoignent de ça, c'est de cette trouille que le futur, contrairement à ce que fait Black Mirror, que le futur ce soit pas quelque chose de complexe au sens technologique du terme, mais au contraire, un truc complètement rétrograde où on nous retire ce que le progrès nous a apporté.
De toute manière, je trouve qu'il y a toujours eu plusieurs visées ou plusieurs types de dystopies. Il y en a qui travaillent vraiment quelque chose de politique, des angoisses politiques et sociales comme Handmaid's Tale. Il y en a d'autres qui travaillent la peur de la technologie, de jusqu'où elle pourrait nous amener, voire du devenir de l'humain, de la robotique. On est plus dans les séries comme Westworld ou...
Du coup, on t'a pas vraiment répondu, Marie,
désolé. Non, mais ce qui est marrant, c'est que tu en as parlé, c'est que le livre La Servante Écarlate, il est sorti en 1985. Or, aujourd'hui, on en parle beaucoup comme une œuvre qui pourrait être totalement contemporaine et comme quelque chose où c'est le fait que les gens n'aient pas réagi qui a permis le basculement dans une dictature. Donc, comment ça se fait que ce soit toujours pertinent, Asma ?
Si tu veux, Handmaid's Tale est arrivé au bon moment parce qu'on est en train de vivre quand même une régression aussi mentale dans notre société, en quelque sorte. On part dans les extrêmes, que tu parles de l'avortement ou d'un retour aux traditions, à la fermeture des frontières, etc. Il y a une espèce d'opinion rétrograde où, par exemple, on ne peut plus rien dire sans qu'une minorité
on ne peut plus rien dire. Voilà. Est-ce que tu donnes dans le « on ne peut plus rien dire » ?
Je viens de recevoir un coup de fil des grosses têtes qui nous disent pas du tout. Ah, désolé.
Mais donc, du coup, moi, je pense que Handmaid's Tale, même si elle est sortie en 1985, c'était un peu, si tu veux, à une époque où tout était possible dans les années 80 et encore plus dans les années 90 où tout allait bien. C'était un peu comme si elle voyait déjà à l'époque qu'on allait revenir en arrière et qu'on allait commencer à repartir dans des opinions rétrogrades et des visions rétrogrades de l'humanité ou de la vie en soi.
Mais c'est un bouquin qui a de toute façon pas vieilli. Je l'ai lu, moi, entre la saison 1 et la saison 2, à quelques petits détails près de technologie notamment. Il est toujours extrêmement d'actualité. Il y a eu un film en 90 dans un premier temps et la série n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire pour que ça soit toujours crédible. Et ce qui est intéressant dans cette expression que t'employais, Marie, de « on ne s'est pas réveillé », c'est que la dystopie, c'est un cauchemar. Et que quand Offred dit « on ne s'est pas réveillé », c'est justement « on n'a pas vu ce cauchemar arriver, on était ailleurs ». Et évidemment, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, appelle le téléspectateur à réagir.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce que le « on ne s'est pas réveillé », c'est pas justement une mise en garde ?
Oui, c'est ce que les Américains appellent un « cautionary tale », c'est-à-dire vraiment une histoire qu'on est censé regarder. Alors, en passant un bon moment, parce que c'est un divertissement aussi, sauf que The Handmaid's Tale, c'est qu'un moment très pénible, mais d'un point de vue critique, c'est un bon moment, et qu'on est censé à la sortie se dire « Merde, il y a quelque chose qui va pas ». Et c'est pas pour rien que cette série a été récupérée, au bon sens du terme, par les marches des femmes, par tous les mouvements actuels, par Hillary Clinton en personne, qui a fait un grand discours pour le planning familial, en citant directement, d'ailleurs mal, je crois, parce que c'est pas une vraie citation qu'elle a citée, mais c'est pas grave, The Handmaid's Tale. C'est devenu un véritable symbole, cette série. Les robes ont été récupérées, etc. Et donc, évidemment, c'est une série... sonnette d'alarme.
Il y a un élément qui est proche de 1984, c'est dans la novlangue également. On a un langage qui était un peu particulier. Je vois Aspa hocher de la tête, donc elle va me contredire dans un moment. Dans The Handmaid's Tale, il y a vraiment ces personnes qui se répètent Blessed be the fruit, under his eye.
May the Lord open, etc. Moi, pour moi, c'est juste des citations des écritures saintes, en fait. C'est pour rappeler.
Mais le langage conditionne la pensée.
Je suis complètement d'accord, mais c'est juste la manière dont c'est écrit dans la Bible, en fait. Ils ont pris des citations et ils les ont mises en avant comme on le ferait dans la religion musulmane ou judaïque. On dirait salam alaykoum ou ce que tu veux. C'est des idiomes, en fait. C'est des phrases qui vont te permettre de conditionner les gens dans la vision religieuse, en fait, de ceux qui ont pris le pouvoir dans cette dystopie-là.
Je trouve que la novlangue dans The Handmaid's Tale, elle n'a pas non plus le même pouvoir de transformation des esprits que dans le livre de George Orwell, par exemple, où là, il y a tout un langage complet qui est inventé et où les gens ne peuvent plus différencier deux doigts de cinq doigts, par exemple, ou amour de guerre.
Non, mais on classe quand même les gens en fonction de certains, de leur catégorie sociale, de leur travail, qui ont des noms différents. On a quand même les Martha, les servantes.
Mis à part l'abolition du nom, pardon.
J'allais dire dans le bouquin, la série l'a un peu laissé, mais il y a quand même une sorte de novlangue, c'est-à-dire qu'il y a les éconofemmes, il y a tout un langage, sans parler de la cérémonie qui est en fait concrètement un viol. Enfin, il y a tout un habillage de l'horreur,
en fait,
et de la
la
dictature. Il y a le côté religieux, mais il y a aussi quand même un vocabulaire strict qui correspond à la société stricte, où on ne dit pas la sécurité, on dit les yeux. Voilà, il y a quand même un habillage.
Les puritains au XVIe, XVIIe siècle, c'était extrêmement strict, et c'était basé justement sur des citations, comme on dit en anglais, de scriptures, en fait, de d'écritures saintes, qu'ils mettaient, qu'ils usaient au quotidien pour justifier, en fait,
du coup,
leur méfait.
Merci.
La Bible est une dystopie.
Pas spécialement. C'est l'interprétation de la Bible. N'importe quelle interprétation d'écriture sainte, que ce soit la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ou le Coran, toute interprétation, c'est juste une dénonce des dérives extrêmes religieuses pour moi. Quand je vois les servantes écarlates et la condition des femmes, en fait, dans cette société-là, moi, je me souviens, la première saison, je l'ai vue un peu plus tard, parce que c'est pas moi qui m'en suis occupée. Et du coup, je faisais une analogie dans ma tête avec la condition des femmes en Arabie Saoudite, par exemple. Pour moi, la robe, c'est quasiment exactement la même chose. C'est la même chose que les robes des bonnes sœurs à l'époque puritaine. C'est pour ça, en fait, que j'ai du mal avec la notion de novlangue, parce que c'est pas nécessaire. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est rétro-futuriste. C'est-à-dire que ça s'inspire de choses extrêmement réelles, que ce soit dans les flashbacks ou dans la religion. Mais en même temps, c'est futuriste parce que ça parle d'une société qu'on ne connaît pas.
Alors, avec The Handmaid's Tale, on parle d'un postulat qui est que les femmes, la majorité des femmes, sont stériles. Or, on a une autre série qui est sortie il y a quelques années qui s'appelle Utopia en 2013-2014 qui parle exactement de l'inverse, qui est on a trop de monde sur Terre, nos ressources sont épuisables et pour ça, il va falloir y remédier. Certains d'entre vous auront reconnu le générique d'Utopia, la série complètement jouissive et dérangeante de Channel 4 qui a été diffusée donc entre 2013 et 2014. Utopia, c'est l'histoire de personnages lambda embourbés dans une conspiration à grande échelle qui part d'un postulat. Il y a trop d'êtres humains sur Terre. Donc, une organisation spéciale a décidé d'empoisonner entre 90 et 95% de la population pour la rendre stérile. Est-ce que Pierre, tu as l'air de bugger complètement?
J'allais juste dire spoiler alerte quand même, parce qu'on l'a pas tout de suite.
La série, elle date de 2013, on va se calmer maintenant. De toute façon, c'est pas ça qui gâche la série. Alors comment est-ce que, comment vous, je sais pas si tout le monde a vu Utopie autour de cette table, mais comme on parle de dystopie, c'est quand même une série dont on était obligé de parler. Pourquoi ce nom, à votre avis, Alexandre?
Moi, ce que je trouve très très fort dans Utopia, c'est que contrairement à une dystopie comme The Handmaid's Tale, le mal avance vraiment de manière hyper cachée, en fait, hyper dissimulée. Et la société dans laquelle les personnages évoluent, même si elle est filmée de manière très pop, très colorée, avec des giclées comme ça d'ultra-violence, elle travaille vraiment un mal insidieux qu'on dévoile petit à petit. Et c'est pour ça que tu parlais de, que Pierre parlait de spoiler aussi. Voilà,
aussi.
Ça joue sur le conspirationnisme contemporain, sur les théories du complot, sur...
Ouais, là, pour le coup, on est presque, j'aurais presque pas pensé à Utopia, en fait, pour parler
de dystopie. C'est vrai que moi, j'y ai pensé, j'y l'ai mis dedans, parce qu'aussi, elle a le nom d'Utopia, et, oui. Et du coup, appelle
et
quand même un petit peu à la
comparaison.
Oui, et d'ailleurs, évidemment, ne me ferai pas l'avocat du diable si facilement, mais la réflexion qui est posée et qui est menée par des sacrés vilains dans la série, elle est une réflexion concrète, mais qui a le mérite d'être posée. Enfin, c'est-à-dire que la surpopulation, c'est un vrai problème. Et alors, évidemment, la solution que proposent les méchants dans la série est un petit peu radicale.
Mais c'est pas la seule série mais qui c'est, l'a proposée.
Ouais, voilà. Et c'est intéressant. Avengers.
Pardon. On vient de voir
spoiler.
C'est ça qui est intéressant dans les dystopies, c'est de poser des questions. C'est des séries qui, quelle que soit leur violence, le côté extrême, le côté futuriste, décalé, etc., on est censé, c'est ce que Black Mirror fait très bien, ou faisait très bien en tout cas, et que The Handmaid's Tale fait très bien, c'est qu'on est censé, à la fin de chaque épisode, être en mode, waouh, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Quel est le monde dans lequel je vis? Est-ce qu'on n'est pas tous en train de crever?
Est-ce que c'est nécessaire ça pour toi que ce soit à la fin de chaque épisode? Parce que quand on parle d'Utopia, c'est ce que tu disais Alexandre, on a quelque chose de plus latent, un peu plus silencieux. Mais c'est qu'à la fin de la première saison où on prend conscience de que en fait ça peut être une dystopie. Est-ce que ça c'est ça reste quand même une
dystopie
une
retardement?
Alors. Non, dystopie retardement.
Bah, je pense que alors. Moi, mea culpa, hein, j'ai vu qu'un épisode et demi, malheureusement, je ne peux pas tout voir. Mais donc, j'ai été spoilée.
Tu es humaine, tu as été spoilée par...
Mais ce n'est pas grave, c'est pas grave, le spoiler, ce n'est pas le mal. Mais je trouve que ce n'est pas plus mal, parce que justement, ça donne un peu plus de réalisme et de résonance vis-à-vis, tu vois, de notre réalité. C'est-à-dire qu'on est là, on regarde une série, on n'a pas l'impression, en fait, qu'on pense que
on
c'est juste
quoi, ça,
la théorie du complot, qu'il y a des gens, en fait, qui cherchent un comic book, machin, etc. On pense que c'est hyper light, même si c'est un peu gore parfois. On comprend pas trop les enjeux très, très vite. Et en fait, à la fin, on se prend une claque qui te dit, bah voilà, en fait, tu pensais que c'était ça, mais pas du tout. Tu vas réfléchir sur ce qui se passe vraiment, en fait, dans le monde, sur ta planète, quoi. À l'heure où on parle de développement durable, d'économie de ressources, de nouvelles manières de s'alimenter avec les insectes, etc. C'est une bonne manière de parler de ça, alors qu'on n'en parle pas assez entre nous, en fait.
Donc là, on s'empare d'un sujet de société pour amener vraiment le débat dans notre présent. On n'est pas que dans l'histoire. Est-ce que toutes les dystopies, pour vous, doivent faire réfléchir?
Bah ouais, ça me paraît. Non, mais ça me paraît être important, mais pas nécessairement réfléchir sur notre présent pour le coup. Si on en revient à The Man in the High Castle, ouais. C'est plutôt pour nous faire réfléchir sur le passé. Est-ce que d'ailleurs Occupy de la série d'Arte est pas une forme de dystopie? Si, très certainement, c'en est une.
Pour refaire le pitch vite fait, c'est la Russie qui a.
Alors la Norvège qui décide pour des raisons écologiques d'arrêter de produire du pétrole, et la Russie avec mandat de l'Europe occupe littéralement la Norvège pour la forcer à contraindre à produire du gaz et du pétrole. Donc réflexion écologique et réflexion, alors ça très présente,
politique.
Et politiquement réflexion sur le passé, puisqu'on a finalement une mise en abîme de la résistance qui est valable aussi bien pour la Seconde Guerre mondiale que pour d'autres conflits armés, d'ailleurs beaucoup plus récents.
La Servante écarlate, tu disais que c'était pas une réflexion sur le présent pour toi.
Ah si, complètement. Ah, si.
D'accord.
Ah,
oui. Je revenais
peux pas
en
ne pas dire que c'est pas une réflexion
moi,
sur
je
le
dis
présent.
Pas,
c'est peut-être une réflexion sur le présent, le passé, enfin sur
le... C'est un signal d'alarme quand tu vois les nanas, enfin les manifestants se prendre des coups de fusil, tu te dis mais on n'est pas loin de ça en fait.
Mais on n'est pas loin de ça, on est dedans en fait. Mais de toute façon, les créateurs de The Handmaid's Tale de la série télé répètent encore, encore et encore, il n'y a rien qui n'existe pas dans The Handmaid's Tale. Rien de ce qui ne se passe dans The Handmaid's Tale n'est pas inspiré d'une façon ou d'une autre du pire de l'humanité en fait. Voilà. Mais il n'y a pas de pure création, sinon ils disent sinon c'est de la pornographie et on veut pas en faire.
Alexandre, sur sur Occupied
Non, après tu parlais de, je voulais revenir vite fait sur The Man in the High Castle, où là où on touche aussi à la différence entre la dystopie et l'Uchronie.
Est-ce que tu peux dire le pitch de The Man in the High Castle?
Alors, dans The Man in the High Castle, on imagine que l'Allemagne nazie a gagné la Seconde Guerre mondiale, a envahi les États-Unis avec le Japon. Et voilà, on est dans les années 60 et un groupe de résistants essaie de sécuriser des fichiers.
C'est vrai que c'est plus une uchronie, t'as raison.
Voilà, et finalement, je trouve qu'il y a une part fictionnelle plus importante, qu'il y a quand même une distance avec le spectateur, qui n'est pas la même dans les dystopies.
Moi, je trouve que The Man in the High Castle est beaucoup plus difficile à regarder, par exemple, que Handmaid's Tale, qui est pourtant filmé de manière à t'angoisser, parce qu'elle joue sur ce qui aurait pu se passer, en fait. Sur une réalité qu'on aurait pu avoir.
Est-ce qu'on est quand même pas un peu plus loin de notre réalité? Moi, je ressens exactement l'inverse de ce que tu dis.
Bah, quand on connaît le massacre nazi et quand on sait ce qui s'est passé, se dire que ça aurait pu continuer, qu'on n'ait pas eu cette coalition de forces armées internationales pour essayer de défaire justement le mal, parce que le nazisme, faut dire ce que c'est le mal.
Je pense. On s'opposera pas sur ce point. Je pense.
Voilà. Mais du coup, je pense que moi, personnellement, j'ai eu vraiment beaucoup de mal au tout début. Ça m'a extrêmement gênée de me dire de voir ces gens-là qui ont quand même commis un génocide énorme et atroce, et pas seulement, même si les Juifs en étaient les victimes principales, tu te dis, on a vraiment évité le pire, quoi.
Oui, non, pardon, j'allais juste rebondir en disant que moi je trouve encore plus flippant de se dire que le pire est à venir, ce que montre
The Handmaid's Tale. Oui, mais tu vois, Handmaid's Tale, pour moi je le vois plus comme un appel à la révolte. C'est pas encore le pire, mais on peut l'éviter. Donc pour moi il y a encore du positif. Alors que dans The Man in the High Castle, quand je la regarde, j'ai l'impression que tout est noir, en fait.
Mais on l'a évité, ce pire-là.
Oui, mais c'est comme si tu me mettais face à une réalité que j'aurais pas voulu voir.
Alors, il y a une autre série dont on n'a pas beaucoup parlé, où on l'a juste mentionnée, je pense que vous la connaissez, elle s'appelle Black Mirror.
Nous vivons dans un monde où nous sommes tous complètement centrés sur nous-mêmes. Il est facile de perdre de vue le sens des réalités. Il est important que vous compreniez que ce test implique une petite procédure médicale.
Pour un jeu vidéo ?
J'ai toujours été du genre à vivre dans le présent et voilà que je me prends le futur en pleine gueule.
Voilà, désolé, j'ai mis la version française que je voulais vraiment me foutre de leur gueule. Mais globalement, bon, Black Mirror a quand même changé beaucoup de choses dans la représentation de la dystopie du monde qui peut basculer en un instant. En revanche, en comparaison avec La Servante Écarlate, là, on parle beaucoup plus de technologie, à part peut-être le premier épisode avec le fameux cochon qui est devenu une célébrité en son pays. Est-ce que Black Mirror est plus une dystopie sur la technologie ou sur les humains?
Les deux, ma générale.
Sur les humains.
Les deux.
J'aime bien que vous soyez jamais d'accord. Mais sur rien.
Alors, sauf quand on arrive à même Terminator, c'est l'humain qui crée la technologie. Donc, fatalement, c'est un cercle vicieux. Quand on parle des technologies, on parle de comment les humains sont capables de les créer. Et d'ailleurs, même le premier épisode, à ce niveau, finalement, parle de comment l'humain prend en main les médias, qui est une forme de technologie.
Pas une dérive futuriste d'un objet qu'on ne connaît pas.
Exactement. C'est vrai que c'est ça la différence. Mais c'est vrai que on est tout le temps ramené à se dire, voilà, c'est une histoire de technologie. C'est une histoire de relation humaine à la technologie. Et c'est souvent ce qui est le plus flippant, c'est de se rendre compte comment les personnages se laissent prendre, se laissent embrigader dans cette technologie. Un peu de la même façon que, regarde, sur cette table devant nous, on a tous nos téléphones portables posés là, qui clignotent dans tous les sens, presque tous. Et donc on a cette dépendance là qui n'existait pas il y a 10 ans. Et qu'est-ce que ça pourra être dans 5 ans? Ça sera sans doute bien pire.
Pourquoi la technologie fait si peur, Alexandre?
La technologie fait peur d'abord parce que elle se prolifère, à mon avis, en tout cas ces dernières années, de manière croissante, notamment les écrans. Enfin, Black Mirror, ça représente l'écran noir de la télévision, du téléphone portable. Et oui, effectivement, elle fait peur dans ce qu'elle fait devenir à l'humain. Je pense que l'humain se dit qu'à force d'être greffé de technologie, d'être accompagné d'écran, il va peut-être finir par perdre son humanité, peut-être par devenir une machine. Et je crois que c'est ça qui est l'angoisse qui travaille profondément Black Mirror, plus qu'une angoisse politique. Comme dans les séries dont on parlait tout à l'heure.
Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans la paranoïaque de nos darons qui ont peur qu'on note. D'ailleurs, il y a un super podcast à propos de ça. Je vous renvoie vers Black Mirror, a-t-il été écrit par vos darons, sur un épisode des Jarrettes. Est-ce que c'est pas une crainte un petit peu irrationnelle de bon ben
tout ce qui est nouveau a toujours fait peur en général. Tout ce que on est tous jeunes autour de cette table, il y a plein de choses en fait qui sont en train d'être développées par des scientifiques ou des ingénieurs, comme l'intelligence artificielle. Moi, je connais quelqu'un qui est en train de développer sa propre intelligence artificielle, et franchement, ça fait peur. Non pas parce que j'ai vu Matrix ou parce que j'ai grandi avec des films de science-fiction qui m'ont fait flipper. Terminator, tu vois. Mais c'est que
on
surtout,
est quand même très loin du Terminator.
Pour parler d'intelligence artificielle, t'avais aussi un épisode, c'est le seul épisode que je trouve d'ailleurs dans X-Files saison 11, où on parle du rôle de l'humain en fait dans sa création. C'est-à-dire dans le sens où tu sais que tu vas créer une technologie, c'est à toi en fait de lui apprendre le bien, le mal, comment se comporter avec les autres, etc. Et Black Mirror fait très bien ça aussi, surtout sur tout ce qui est intelligence artificielle, clonage, etc., qui sont vraiment des technologies qu'on est en train de développer, mais sans qu'on en parle en fait. Il y a très peu d'articles qui parlent de ça, il y a très peu de débats autour justement.
Il y a quand même pas mal d'articles qui parlent de la responsabilité des
développeurs. Mais tout ce qui est biomédecine, tout ce qui est biotechnologie. Enfin, j'ai lu récemment d'internet, j'ai lu un article qui parlait de création de vertèbres métalliques en fait, mais qui serait en plus connecté à ton portable ou machin ou ceci ou cela, et tu sais pas comment on pourrait dériver cette technologie là.
Je sais que dans Grey's Anatomy elles font déjà le café, hein, les vertèbres. Tout à fait. Pardon si vous voulez.
Non, juste pour dire que c'est pas forcément réac, c'est-à-dire qu'il faut pas oublier que c'est de la série télé, qu'on est aussi là pour s'amuser. Depuis tout à l'heure, on parle de choses très graves, mais Black Mirror, ok, c'est censé être un peu choquant et dire oh là là, mon dieu, qu'est-ce qui va se passer avec la technologie. Mais il y a un côté aussi enthousiaste, c'est-à-dire, et surtout dans les derniers épisodes, où il y a un côté un petit peu plus positif pour dire les choses gentiment. Mais c'est pas forcément réac, c'est-à-dire que c'est aussi fantasmant la technologie. Et c'est vrai qu'au début de Black Mirror, c'était ok, en fantasme des trucs extraordinaires, presque la vie éternelle, et badaboum, ça nous revient dans la poire. Sauf que là, Black Mirror est en train aussi d'expérimenter, et qu'est-ce que ça donnerait si on imaginait des trucs complètement dingues, mais que ça n'en venait pas forcément à la gueule, et que ça pouvait devenir quelque chose de plus positif. Et c'est vrai que quand on parle de dystopie, on parle tout le temps du côté obscur de la force, mais il n'y a pas forcément que ça dans une série comme Black Mirror.
Il y a une série qui ne va pas nous aider à être positif, c'est Westworld, qui vient donc la saison 2 est en cours en ce moment. On est là dans quelque chose, dans un monde futuriste où des hommes ont créé un parc de type western avec bourré de robots qui nous ressemblent, dans lesquels les hommes sont enclins à faire exactement ce qu'ils veulent à ces robots, et du coup décupler un peu les passions les plus profondes et les plus malsaines. Là aussi, c'est une dystopie qui est vraiment sombre. On n'est pas du tout dans quelque chose qui fait rigoler, comme dit Pierre. Est-ce que Westworld se différencie des autres séries?
Ce que je trouve très très fort dans Westworld, c'est que déjà elle repart d'un film qui s'appelle Monde Ouest, je ne sais plus exactement quand il est sorti.
Dans les années 70, c'est pas réussi. Hein. Ouh là là, moi je l'ai regardé, qui est plus une comédie d'ailleurs, qui est beaucoup plus drôle que la série.
Ouais. Et ce qui est très fort, c'est qu'en fait, en se mettant comme ça dans un enrambage un petit peu vintage, avec ce côté western et tout, je trouve que la série arrive vraiment à agréger plein d'angoisses du monde contemporain. Il y a à la fois, bien sûr, les régimes...
Qu'on ne voit jamais, en plus, le monde contemporain. Comme quoi. On ne le voit quasiment jamais.
Il va y avoir tout ce qui est du régime fasciste, notamment, on ne spoil pas trop, mais dans la deuxième saison. Il y a aussi tout un rapport à la société du spectacle. Il y a un rapport... il y a des questionnements
au fantasme,
il y a des questionnements sur l'éthique, sur, encore une fois, la limite de la conscience humaine, ou à partir de quand un robot peut-il être considéré...
Ou à partir de quand un être humain sombre dans le mal incontesté et incontestable, quoi.
Mais je vois là que cette société fait comme un espèce de... Ben, elle crée comme un parc d'attractions dans lequel elle fait résonner vraiment des tas d'angoisses contemporaines.
Toutes les déviances humaines.
Mais ce qu'on doit pas oublier, et c'est là je reviens pas à dire que c'est fun, etc., c'est que quand même c'est un parc d'attractions. Et c'est ça qui est intéressant dans Westworld aussi. Après on y trouve absolument tout ce qu'on veut dans Westworld. C'est un miroir où on peut retrouver, en fouillant un peu, on trouve toutes les grandes thématiques métaphysiques et à boire et à manger. C'est vrai qu'il y en a, pour tout le monde. Ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même censé, au départ, être un truc positif. C'est-à-dire que ce parc, il n'a pas nécessairement été créé pour être un gros défouloir pour que les gens viennent buter tout ce qui bouge.
C'est humains qui l'ont rendu comme ça.
C'est les humains qui, très vite...
Et la firme aussi qui
très
tient
vite,
ce parc.
On comprend dans la saison 2 que finalement, il y a des levels, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de violence et que ce qu'on croyait être le pire, le western, c'est pas nécessairement
c'est surtout,
le pire.
Moi, ce que je retiens des épisodes qu'on a vus de la saison 2, sans spoiler, c'est que
pour moi, le parc, c'est l'enrobage, en fait. C'est la coquille de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire que les concepteurs du parc, l'entreprise qui a conceptualisé le parc, et si on y réfléchit, on peut faire une grosse analogie sur Apple, sur Google, sur toutes ces gros mastodontes commerciaux et du e-commerce ou de l'internet ou du digital ou du numérique ou tout ce que tu veux, ont des enjeux beaucoup plus lucratifs et capitalistes que juste divertir en fait les gens qui viennent dans ces parcs-là ou leur donner les moyens de s'amuser et faire tout ce qu'ils ne feraient pas dans la société.
Tu penses que Mark Zuckerberg veut qu'on aille tuer des gens dans un...
Non, mais je ne te parle pas nécessairement de Facebook, mais quand tu sais que tu as des firmes comme Google qui sont en train de développer des intelligences artificielles et qui en plus, en même temps, tu as Apple à côté qui récupère toutes les données via ton téléphone sur ta santé, sur tes pulsations cardiaques, etc. Et les gens donnent ces informations sans problème, du coup tu te dis qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces données?
Est-ce
qu'ils
ne vont pas faire... Ça alerte aussi sur les entreprises, pas que sur
l'homme.
Delos,
pour moi, c'est l'équivalent de ces entreprises de notre société qui se permettent de développer des choses sans nous en parler et qui en même temps, en fait, te mettent une belle coquille de paraître, de technologie, de machin, de tout ce que tu veux, fun, mais au final, derrière, leurs intérêts ne sont pas si pacifiques que ça.
Alors, ceci étant dit, c'est un classique de la dystopie et de la série de science-fiction négative en général. La grande entreprise, je pense à Resident Evil, ouais. à toutes ces histoires-là. Où on se retrouve le grand méchant, même oh là là, du coup ça me revient plus, Blade Runner, toutes ces séries là qui évidemment mettent la société au sens la multinationale surpuissante comme l'incarnation du futur gouvernement qui gouverne à nos moindres faits et gestes.
Excuse-moi, vas-y, finis.
Après, ce qu'il faut pas oublier dans Westworld, c'est que le parc d'attractions, contrairement à Google, à Facebook ou aux autres géants du web, est réservé uniquement à des gens très très fortunés et très très riches. Mmh. Donc on peut pas dire qu'il représente la société dans son entier, il y a quand même un échantillon, je trouve.
Alors c'est depuis... plutôt les robots eux-mêmes qui représentent la société. Ouais.
Pierre veut pas que je fasse mon dernier lancement. sur le fait que depuis le début, là, ça fait 30 minutes presque, qu'on parle de séries qui sont plutôt pour adultes. Or, il y a pas mal de nouvelles séries comme The 100 ou 3% qui parlent également de ça.
Ça fait 97 ans qu'une apocalypse nucléaire a tué tout le monde sur Terre.
Prisonnier 319, face au mur.
Prisonnier de l'Arche, on vous a offert une seconde chance. On ignore ce qui vous attend.
Alors ça, c'était un extrait de The 100, où il y a 100 adolescents qui sont envoyés sur une île dans un futur assez éloigné pour voir si elle est encore habitable ou pas. Dans 3%, on est dans une société dystopique dans laquelle on a accès à l'élitisme, enfin, aux bonnes conditions sociales, grâce à un concours extrêmement violent où il y a seulement 3% de la population est sélectionnée. Donc bon, ça, c'est des, sur le papier, c'est quand même des shows qui sont assez compliqué, assez dur, mais c'est marketé comme des teen shows, c'est principalement des séries qui sont appréciées des ados, ça fait penser forcément au film Hunger Games, ou Divergente, qu'est-ce qui différencie ces séries, pourquoi est-ce qu'elles sont taguées séries pour ados?
Elles sont taguées séries par ados d'abord parce que ces héros sont des ados, c'est la base vraiment de ces histoires là et alors là encore on va revenir à la littérature, Sa Majesté des Mouches qui est vraiment la référence absolue de ces séries là qui sont des histoires autant de société que d'apprentissage de je deviens un adulte. Et évidemment, ça rajoute un enjeu supplémentaire. Donc, normalement, ces séries-là devraient être plus intéressantes encore. Parce que non seulement ça questionne l'état de la société, mais ça questionne aussi la construction de la société, littéralement, à travers ces jeunes héros qui vont apprendre à vivre. Et qu'est-ce qu'ils vont choisir? La solidarité? S'aider les uns les autres, apprendre que devenir citoyen, littéralement, c'est participer et aider son prochain, ou est-ce qu'ils vont en avoir affaire qu'à leur gueule et ils vont s'entretuer? Et le grand enjeu de ces séries-là, alors qui ensuite partent dans des délires scénaristiques souvent difficiles à suivre, en même temps, c'est ce qu'a fait Lost en son temps, donc on ne lui reproche pas forcément. Moi, je ne lui reproche pas, n'est-ce pas, Asma? C'est ça.
C'est gratuit.
Non, mais il n'arrive pas à avaler le fait que je trouve que Lost est une arnaque, mais ça ne tient qu'à moi.
On a perdu Asma. Alexandre, pour...
Non, ce que je trouve très très fort dans ces séries dystopiques adolescente, c'est que ça permet vraiment à une jeunesse d'inventer un mode de société et d'avoir à un moment donné le choix. C'est est-ce qu'on recrée la société de nos parents qui là a des règles vraiment terrifiantes, ou est-ce que qu'on renverse tout avec une rébellion très adolescente et qu'on reconstruit un monde qu'on s'approprie de manière plus juste, plus équitable, plus égalitaire.
Est-ce que ça veut dire que les dystopies ados sont plus porteuses d'espoir?
Ah non, elles sont juste la caractérisation de l'adolescence, tout simplement. Quand t'es adolescent, tu te rebelles contre tes parents, tu te rebelles contre l'État, t'as l'impression de tout savoir, tout connaître.
Oui, on est dans une certaine construction d'une possibilité d'empowerment et de tu peux construire ton propre avenir.
C'est très bien, mais en même temps, les ados, ce qu'ils cherchent avant tout quand ils regardent une série, c'est se découvrir eux-mêmes. C'est pour ça aussi que dans ces séries-là, tu as beaucoup d'enjeux amoureux, romantiques, tout ce que tu veux, donc résultat, c'est moi je pense, même si ça leur donne des clés en fait d'empowerment et d'appel au changement ou à la créativité ou tout ce que tu veux, je pense quand même que c'est une série plutôt pour la découverte personnelle que pour la
pour montrer des choses de notre monde.
Ouais, mais c'est intéressant quand même. Je suis d'accord avec ce que disait Alexandre. C'est cette série qui s'adresse à un public qui est né dedans. Ces personnages sont pas des personnages qui sont portés par la moindre nostalgie. The Handmaid's Tale, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de flashbacks où on nous montre la vie d'avant. Ces séries avec des adolescents, les adolescents, ils sont pas forcément en train de se dire c'était mieux avant. Ils sont en train de se dire c'était pourri avant. Et notre avenir, on peut le contrôler. Donc je dirais oui à ta question, est-ce qu'elles sont plus optimistes? Certainement qu'elles le sont, parce que l'avenir leur appartient aux ados. Là où il y a d'autres séries dystopiques, où c'est juste, en fait, le futur est sombre, et nous autres adultes, bah, soit on a fait des erreurs par le passé, ou au pire, on va essayer de les corriger. Mais il y a peut-être quelque chose de plus, d'une dynamique effectivement plus utopique, pour revenir à Utopia, avec les plus jeunes.
Pour finir, est-ce que on a mentionné pas mal de séries. Quelle est celle qui vous fait le plus réfléchir aujourd'hui parmi toutes celles qu'on a mentionnées? Ou peut-être que j'en ai oublié d'ailleurs. Asma. Ça, c'était The Man in the High Castle, tu disais?
Celle qui me fait le plus réfléchir et qui... Même si The Man in the High Castle a généré quand même des émotions assez fortes, c'est pas à la hauteur quand même de Handmaid's Tale, parce que Handmaid's Tale, c'est un véritable malaise quand tu la regardes. Mmh. C'est une douleur incommensurable, encore plus quand tu es une femme, parce que tu as quand même été oppressée en tant que femme dans ta vie.
Tu l'es encore.
Voilà. Mais du coup, moi, pour moi, c'est vraiment la série qui te marque et qu'il faut que tout le monde voit au moins une fois dans leur vie.
Et de l'autre côté de la table, Pierre?
Alors évidemment, The Handmaid's Tale est très forte, mais Black Mirror, dans ses meilleurs épisodes, c'est vraiment celle qui m'a laissé avec besoin de 24-48 heures pour vraiment resonger à ce que je venais de voir.
Bah, moi, tu vois, c'est pour moi, c'était.
Bah, en fait, The Handmaid's Tale, je suis bouleversé, je suis écrasé par ce que je vois, mais en fait, je n'ai pas à réfléchir parce que je me dis, c'est concret, quoi. C'est-à-dire que c'est très concret. Je me dis pas, ah, dis donc, je viens d'apprendre un truc. Non, je me dis, c'est horrible et ça existe quelque part dans le monde et c'est une menace et c'est une série qui me fait réagir, mais pas forcément réfléchir autant que Black Mirror peut le faire, parce que Black Mirror me pose des questions que je me suis jamais posées.
Alexandre,
de mon côté, je triche et j'en choisis deux. Je vais choisir les épisodes, on va dire, optimistes de Black Mirror, les plus lyriques, ceux qui n'ont pas une morale un peu sadique, punitive,
voilà,
type San Junipero. Où je trouve que voilà, pour une fois, on fait briller un futur quand même. Même si voilà, ça peut être compliqué, ça peut créer de la confusion. On peut imaginer un futur qui crée des nouveaux désirs, de belles choses. Et d'un autre côté, un truc plus léger sur 3%, qui est une série teen. Je trouve quand même que bon, les ados de la série sont obligés de passer une série de tests pour pouvoir aller dans un monde riche, on va dire. Et je trouve que la manière, la clarté avec laquelle ces tests reproduisent tous les codes du monde de l'entreprise, tous les codes de la société capitaliste d'aujourd'hui, l'individualisme, l'affrontement de chacun, la triche, je trouve à la fois très clair, plus clair que dans Westworld ou d'autres, et très très simple.
Juste pour préciser que c'est une série brésilienne, hein. Je ne sais pas si on l'a dit, mais du coup c'est une autre société qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui finalement ressemble beaucoup à la nôtre, mais avec d'autres codes peut-être.
Un épisode et j'arrête, c'est déjà fini pour cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, le podcast tournera en boucle dans vos casques de réalité virtuelle lorsque la CS aura déclaré que la France n'est plus une république mais une séricratie. Merci à Asma El Mardi de Brain Damage, Pierre Langlais de Télérama et Alexandre Buyuko d'Abbas des Inroc d'avoir tenté de percer le mystère de notre fascination pour la dystopie. Rendez-vous la semaine prochaine avec une émission consacrée aux hits surprises, ces séries qu'on n'avait pas vu venir comme, allez, au pif, La Casa de Papel. Ça vous dit quelque chose? tous. En attendant, pour ne rien manquer de l'actu de la CS et d'un épisode des Jarrettes, suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. Parfois, on est plutôt cool. À la semaine prochaine.
Next one. Whoa, wait.
That's the last one.